Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bon réveil à tous, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot, peut-être encore tranquille, à la maison. Géraldine Demory, je le sais, elle est déjà au travail. Salut Géraldine.
Bah oui, tu me vois quand même.
Mais oui, je te vois, mais c'est pour tous les autres que je vous pose la question. Mais oui, dites-nous ce que vous faites réveiller d'aussi bon matin. Comment ça va Géraldine?
Bah ça va très bien et toi Charles?
Mais oui, ça va. En plus, on a une bonne nouvelle. Alors c'est maintenant on le dit comme ça, c'est qu'il pleut.
Oui.
Et oui, il pleut enfin sur les Pyrénées, notamment les Pyrénées-Orientales qui attendaient ça depuis 2 ans.
Ouais, on précise les Pyrénées-Orientales parce qu'ailleurs on commence à en avoir quand même un petit peu ras-le-bol.
Oui, c'est bon, là, les nappes sont pleines.
Mais oui,
bon.
Enfin, cette pluie qui semblait éviter à chaque fois les Pyrénées-Orientales. À chaque fois, je vous disais, c'est bon, il va pleuvoir. Et puis bam, ça passait juste à côté.
Et département maudit.
Ah oui, mais vraiment, depuis 2 ans, c'était vraiment une très grave sécheresse, oui. Inédite. Et là, alors, ça ne va pas tout changer, mais en tout cas, on se réjouit de cette pluie. Là, il pleut encore, il va pleuvoir jusqu'à jeudi. Et ça fait vraiment du bien.
Voilà, ça fait du bien du côté de Perpignan, du côté des Pyrénées-Orientales. Voilà, on vous salue ce matin et on sait que vous l'attendiez. Cette pluie, c'est une très bonne nouvelle pour le département. Et puis évidemment, un point complet sur la météo dans un instant. Mais ce matin, on a un programme riche, évidemment. Toute l'info sur RMC, vous le savez, tous vos journaux en direct dès 5h. Et puis ce débat qu'on va avoir ensemble au 32-16, on va parler des tensions qui montent dans nos facs, dans nos universités, dans les grandes écoles aussi. Est-ce que nos facs vont s'embraser à l'image des campus américains autour de la question du conflit israélo-palestinien?
En tout cas, après Sciences Po Paris la semaine dernière, des manifestants pro-palestiniens ont tenté hier d'occuper la Sorbonne. Alors, ils ont été rapidement délogés par les CRS, c'était à la demande de Gabriel Attal. Aujourd'hui, d'autres rassemblements sont prévus sur les campus lyonnais ou encore à Reims.
Ouais, c'est pas banal, hein, cette image de la police, des CRS dans la Sorbonne hier, mais ces rassemblements, bah, vous avez forcément vu les images, hein, qui sont soutenues, encouragées même par les députés LFI. Certains se rendent sur place. Tiens, d'ailleurs, l'un d'entre eux, Louis Boyard, sera tout à l'heure l'invité d'Apolline dans le face-à-face à 8h30. Mais dès maintenant, on vous attend au 32-16. On sait qu'à droite, on dénonce des blocages illégaux, des manifestants qui seraient parfois pro-Hamas, antisémites. On a entendu des slogans qui choquent et des images qui choquent aussi dans ces mobilisations, dans ces manifestations. On vous pose la question au 32-16. Est-ce qu'il faut interdire, empêcher systématiquement ces blocages et même ces rassemblements dans les universités? Ou alors, est-ce qu'au contraire, selon vous, c'est normal que les étudiants se mobilisent, c'est leur droit, c'est la liberté de manifester? On va avoir ce débat. Est-ce que ça vous inquiète tout simplement cette importation du conflit israélo-palestinien dans les facs françaises? Venez témoigner si vous êtes étudiant, prof, et puis évidemment si vous avez des enfants aussi à la fac, à l'université. Est-ce que ce climat actuel dans les facs françaises vous inquiète? Vous prenez la parole au 32-16.
Et on va aussi parler de sujets un petit peu plus légers. Le chef cuistot Anthony Morel qui va venir nous faire goûter du poisson, qui n'est pas du poisson. On va tout vous dire, ce sera dans la bande à 5h40. Jordan Olivier nous donnera des nouvelles de Mike Maignan, le gardien des Bleus, blessé à 6 semaines de l'Euro. La France qui a peur.
Oui.
Et puis Manu Le Chiffre nous parlera d'un
Manu
petit nouveau.
Manu Le Chiffre.
Le Chiffre.
Oui, mais c'est un magnifique lapsus.
D'un petit nouveau sur le marché de la banque, la FDJ.
Mais oui, toute l'équipe est là, vous l'entendez, Jordan Olivier. Anthony Morel, Manu Le Chiffre, Géraldine Demory. Vous êtes bien sur RMC, excellent réveil à tous. Il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'actu, toute l'info en direct, c'est votre journal qui vous est présenté par Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un adolescent de 15 ans mis en examen a écroué hier soir pour meurtre 2 jours après la mort de Mathis à Châteauroux. Les mouvements pro-palestiniens gagnent du terrain dans les facs françaises alors que l'espoir d'une trêve entre le Hamas et Israël semble sur le point d'être signé. Et puis le PSG, grand favori des demi-finales de Ligue des Champions, demain face au Borussia Dortmund, un adversaire à ne surtout pas sous-estimer.
Mise en examen du meurtrier présumé de Mathis, poignardé samedi soir à Châteauroux.
Âgé de 15 ans, le suspect a été écroué hier soir pour meurtre. Sa mère est quant à elle mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. RMC vous le révélait hier à l'origine du drame. Une altercation entre les deux garçons. Précision ce matin de Guillaume Bier.
Oui, une altercation en fin de matinée. Samedi, Mathis aurait insulté l'adolescent afghan en raison de ses origines. Fils de Ben Laden, fils d'Afghan, retourne dans ton pays. Et il lui aurait asséné un coup de poing au visage. Un récit confirmé par des témoins, blessures et ecchymoses également constatées par un médecin. Incapable de décolérer, c'est pour se venger que le suspect est ressorti quelques heures plus tard, poignardant le jeune Mathis devant ses amis. Sa mère, qui l'avait suivi, est soupçonnée d'avoir giflé Mathis alors qu'il était à terre et demandait de l'aide, d'après deux témoins entendus par les enquêteurs. La mère de famille, elle, a nié avoir porté des coups. Elle affirme qu'elle voulait séparer les deux adolescents, ajoutant que son fils a des problèmes psychologiques et qu'il n'arrive pas à se contrôler.
Les précisions de Guillaume Bié, chef du service police-justice RMC. L'Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies. Annoncé hier de la présidente de région Valérie Pécresse, trois jours après un accord entre la direction et l'établissement parisien et les militants pro-palestiniens qui bloquaient l'université. Nouveau rassemblement hier sur la place de la Sorbonne à proximité du bâtiment. 200 personnes ont manifesté. Certains ont même investi la cour d'honneur de l'université avant d'être délogés par les autorités sans interpellation. Un mouvement qui prend son origine dans les universités américaines et qui s'étend dans les facs françaises. Illustration à Lyon où deux rassemblements sont prévus demain. Le reportage de Vincent Chevalier.
Rassemblement en solidarité avec la Palestine prévu à midi dans la cour d'honneur du centre Berthelot qui abrite Sciences Po. Justine sera présente.
C'est une situation qui est juste désastreuse et qui m'émeut beaucoup.
Cette étudiante en deuxième année a suivi de loin le blocage de Sciences Po Paris, mais pour elle, pas de quoi polémiquer.
C'est des moyens de manifester qui sont totalement légitimes, qui ont toujours fait partie des luttes, qui n'entachent en rien la légitimité du mouvement.
Également étudiante à l'Institut d'études politiques de Lyon, Naïla fera partie du rassemblement et elle rejette catégoriquement toute accusation d'antisémitisme.
On ne peut plus défendre une cause sans qu'on nous tâche de quelque chose d'autre. C'est pas une question d'antisémitisme. Et je trouve qu'on se fait trop vite attacher de ça pendant que c'est vraiment pas le cas et ça n'a jamais été dans nos convictions ni dans nos pensées.
Pourtant, selon l'UNI, un syndicat d'étudiants étiqueté à droite, ces rassemblements sont souvent marqués par des débordements.
Les slogans, c'est Abba l'État d'Israël, sioniste hors de nos facs.
Barthélémy Kerbido, responsable syndical à Lyon, en appelle aux directions des établissements.
Je rappelle que le blocage d'une faculté est illégal et puni par la loi et que les présidents d'université ont la possibilité de faire intervenir la police via le préfet.
Un autre rassemblement est également prévu à 16h dans la cour de l'université Lyon 3.
Eh bien, faut-il interdire, empêcher ces blocages annoncés, là vous l'entendez, du côté de Lyon. On annonce aussi une mobilisation sur des campus du côté de Reims. Hier, les CRS sont entrés à la Sorbonne pour déloger les manifestants pro-palestiniens. Est-ce que ça vous inquiète cette importation, oui, du conflit israélo-palestinien dans les facs françaises, un peu à l'image de ce qui se passe sur les campus américains? Vous venez témoigner, vous prenez la parole ce matin, ça se passe au 32-16.
Et c'est dans ce contexte que le Hamas doit rendre sa décision au sujet d'une trêve avec Israël. De nouveau, pour parler, ont été engagés hier au Caire en Égypte. Les précisions avec Marion Gauthier.
Toute la pression du monde devrait être braquée sur le Hamas pour lui dire d'accepter cet accord, a déclaré le ministre des Affaires étrangères britannique. Les choses se présentent mieux cette fois, concède un responsable palestinien, mais il est trop tôt pour parler d'une atmosphère positive dans les négociations, prévient un autre. L'État hébreu proposerait un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens contre celle d'une trentaine d'otages israéliens. Le Hamas réclame un cessez-le-feu permanent. Israël proposerait une période de calme durable, un retrait partiel de ses troupes et une liberté de déplacement pour les civils qui pourraient donc retourner dans le nord de la bande de Gaza. La seule trêve depuis le début du conflit a été instaurée fin novembre. Elle a duré une semaine.
On termine avec Gérard Depardieu, jugé en octobre, mis en examen pour viol. C'est dans une autre affaire que l'acteur est appelé à comparaître devant la justice. Marion Dubreuil.
Oui, l'acteur sera jugé pour des agressions sexuelles sur deux femmes qui ont déposé plainte cette année. Les faits qu'elle dénonce remontent au mois de septembre 2021 sur le tournage des Volets Verts. Une décoratrice du film, âgée de 53 ans, accuse Gérard Depardieu de l'avoir coincé entre ses jambes et pétrit la taille jusqu'au sein en menaçant sur le ton de la blague de la pénétrer. La troisième assistante réalisatrice du même long métrage, âgée de 33 ans, a dénoncé quant à elle de nombreux attouchements à la poitrine et sur les fesses. Elles avaient affirmé que l'acteur avait dû s'excuser auprès d'elle à la demande de l'équipe de production. Une troisième plaignante a été confrontée, elle aussi, hier après-midi au comédien. Elle dénonçait des attouchements quand elle n'avait que 24 ans sur le tournage d'un court-métrage. C'était il y a 10 ans, mais les faits sont aujourd'hui prescrits.
Arnaud Lagardère, mis en examen pour abus de biens sociaux, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et abus de pouvoir. L'homme d'affaires de 63 ans est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer des dépenses personnelles pendant plusieurs années. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, demi-finale de Ligue des Champions demain soir sur RMC Sport 1. Deux équipes qui se retrouvent après les phases de poule. Et si les Parisiens, Charles, vous n'allez pas me contredire, sont donnés favoris dans ce match, attention, attention à ne pas sous-estimer un adversaire aux deux visages cette saison. Le premier en championnat et le meilleur Valentin Jamin en Coupe d'Europe.
La Ligue des Champions, c'est une joyeuse parenthèse dans la saison particulière de Dortmund. Cinquième et irrégulière en championnat, l'équipe surprend tout le monde en Europe, même Jesko von Eichmann, journaliste qui suit le club pour Sky.
C'est difficile à expliquer. Ils peuvent être faibles contre des équipes modestes en Allemagne et très forts en Coupe d'Europe. Ils ont gagné de la confiance dans cette compétition. Des joueurs ont progressé, il y a plus de motivation. La défaite en poule contre Paris était leur pire match, les joueurs le disent.
Une victoire logique, 2-0 du PSG, mais Dortmund est monté en puissance et avait failli éliminer Paris lors de leur deuxième affrontement, score final 1-1. Depuis, le Borussia n'a perdu qu'un match dans la compétition contre l'Atlético de Madrid au tour précédent avant de tout renverser au retour grâce à un caractère loué par l'entraîneur Edin Terzic.
On n'avait qu'un point après deux matchs en Ligue des Champions. Tout le monde pensait que c'était fini pour nous. Mais on s'est battu et maintenant, on se sent bien dans ce genre de rencontre, même si ce sera dur. Mais on mérite d'être là et on sera prêt.
Ce week-end, son équipe a été battue 4-1 à Leipzig. L'objectif, le top 4 s'éloigne et contrairement aux Parisiens, Terzic n'a pas pu faire reposer ses joueurs ces dernières semaines.
Et en attendant, place à la première demi-finale de la compétition ce soir, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid, coup d'envoi 21h. Et on termine avec l'histoire de ce chat retrouvé par une employée d'Amazon dans un colis de livraison. Ça s'est passé aux États-Unis. Un chat encore en vie, sain et sauf, après une semaine de livraison à travers le pays. Malgré la faim et la soif, après un passage chez le vétérinaire, les propriétaires ont été retrouvés. Ils ont expliqué que leur chatte avait dû sauter dans une énorme boîte qu'ils devaient envoyer. Voilà.
Mais ils ont pas fait gaffe.
Ça se finit bien.
Ouais. Oui, en général, un chat, quand même, on le sent dans une boîte.
Oui.
Puis bon, il devait pas rester beaucoup de place pour mettre le reste.
Oui, c'est sûr.
Bon, c'est vrai aussi. Et puis non, mais je voulais donner aussi une petite info quand même à Géraldine, qui, je sais, est loin d'être la seule concernée sur l'autoroute A13. Tous les matins, elle m'en parle.
On arrive au garage, j'en peux plus.
Voilà. Je pourrais faire du playback avec Géraldine. J'en peux plus de cette fermeture de la fameuse autoroute A13. On a une date, hein. Ça pourrait rouvrir le 11 mai prochain en direction de Paris. Uniquement pour les véhicules légers, si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Donc voilà.
Et en plus, on pourrait venir au boulot, mais pas repartir.
Ah oui, ce sera encore la galère pour le retour. Mais voilà, c'est une première perspective, voilà, de ouverture. Je sais que vous êtes nombreux à être concernés. Évidemment, les Franciliens qui se lèvent et qui vont bosser en voiture le matin. Vous écoutez RMC, on est tous ensemble. On retrouve Thibaut tout à l'heure, évidemment, à 5h30 pour un prochain journal. Et quand je dis qu'on est tous ensemble, eh ben, on le constate tous les matins sur Direct Studio. Géraldine, on regarde vos messages sur l'appli RMC.
Oui, tiens, il y a Kevin qui nous fait un petit coucou. Il est déjà au boulot. Il livre des bouteilles de gaz. On a un petit coucou aussi d'un certain Fabien depuis Los Angeles qui nous souhaite une bonne émission. Ça, c'est quelqu'un qui est en vacances et puis on lui manque, je crois, un petit peu.
Ah, c'est notre Fabien.
C'est notre Fabien,
notre réalisateur qui est en vacances. Oui, c'est vrai, au bout du monde. Ah, bah, qui prend le temps de nous écouter. Bah, je sais pas quelle heure il est là-bas. Il doit être tard le soir.
Oui, je pense que oui.
Je sais pas dans quel état il est en train de nous écouter, mais ça nous fait très plaisir d'avoir ces nouvelles depuis Direct Studio. Bah, comme quoi, voilà, même l'équipe RMC communique sur l'appli. Bah, vous n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer des petits bonjours. Évidemment sur l'appli RMC, vous réagissez à toute l'actualité. Ça se passe en direct, on est tous ensemble le matin pour se réveiller et même pour jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh ben, on va voir si vous êtes bien réveillé et si vous méritez ces cadeaux qu'on vous offre le matin sur RMC. Mais pour ça, il faut bien écouter toute l'actu et surtout répondre à notre question du jour.
Quelle université parisienne a été bloquée hier par des manifestants pro-palestiniens ?
Ah, on en a beaucoup parlé. Vous avez eu la réponse dans le journal de Thibaut Texter. On va en débattre d'ailleurs avec vous, voilà, de ces blocages ce matin. Ça se passe au 32-16. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et vous pourrez gagner un radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC.
Eh bien, soyez rapide. Vous envoyez actu par SMS au 732-16 si vous savez quelle université parisienne a été bloquée hier pendant quelques heures par des manifestants pro-palestiniens. Vous n'hésitez pas, soyez rapide. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC Police Justice.
Oui, chaque matin à votre rendez-vous avec le service Police Justice d'RMC, on retrouve Margot Boult. Bonjour Margot.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors ce matin Margot, vous nous racontez l'histoire de ce rappeur américain connu dans le monde entier, mais qui pourtant s'est vu refuser l'entrée d'une boîte de nuit dimanche soir à Paris.
A Boogie With That Hoodie, c'est le nom de ce rappeur américain connu notamment pour ça. 200 millions de vues sur YouTube rien que sur ce morceau, Look Back At It. En tout, 7 millions d'abonnés sur Instagram, 20 millions d'écoutes par mois. Bref, une star internationale du rap, une sorte de Jul américain, une star en pleine tournée mondiale. Et c'est dans le cadre de cette tournée qu'avant-hier soir, le rappeur finit un concert à la Cigale à Paris. Il est 2h du matin, il décide décide d'aller en boîte de nuit avec quelques amis, tous américains. Direction le Boom Boom, juste à côté des Champs-Élysées. À son arrivée, le chanteur est filmé. Grosse chaîne dorée autour du cou, bouteille de champagne à la main. Très sûr de lui, il fonce vers l'entrée, double toute la queue. Mais là, star américaine ou pas, les videurs l'arrêtent et lui refusent l'entrée. Il essaye de forcer le passage, de soulever une barrière pour rentrer par le côté. Le ton monte, les agents de sécurité finissent même par appeler la police. Le rappeur et ses amis sont interpellés, placés en garde à vue pour la nuit au commissariat du 16e arrondissement de Paris, avant d'être relâchés sans aucune charge hier. Et heureusement, puisque le chanteur a rendez-vous sur scène demain soir à Manchester devant 24 000 personnes.
Un boogie, ou un hoodie, bah dis donc, oui, c'est fait mal remarqué, j'ai envie de dire, à Paris. Bon, on espère qu'il sera, on va dire, un peu plus sage sur scène, c'est ça, demain soir à Manchester. Merci en tout cas, Margot Boult, pour ce récit avec le service police-justice d'RMC. Il est 5h12.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Faut-il empêcher, interdire les manifestations et les blocages pro-palestiniens dans les facs? Après Sciences Po Paris la semaine dernière, des étudiants ont tenté d'occuper la Sorbonne hier à Paris. Ils ont été délogés par les CRS à la demande de Gabriel Attal. D'autres rassemblements sont annoncés aujourd'hui du côté des campus de Lyon, de Reims. La France Insoumise, on le sait, soutient, encourage le mouvement. La droite dénonce des manifestations pro-Hamas et antisémites. Alors, est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce que ça vous inquiète, cette importation du conflit israélo-palestinien dans les facs françaises? On vous attend au 32-16, c'est à vous de nous dire dans un instant. Et puis tout de suite, on retrouve Guillemette Franquet pour RMC S'engage. Guillemette qui vient ce matin en aide à Julien, qui n'a toujours pas reçu son permis alors qu'il a décroché l'examen haut la main il y a 8 mois maintenant.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bientôt 5h15. Excellent réveil à tous sur RMC.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Guillemette Franquet qui nous rejoint ce matin. Bonjour Guillemette.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Alors Guillemette, ce matin on parle de permis de conduire.
Oui, hein, c'est un examen qu'on n'oublie pas, surtout comme moi qui l'ai raté deux fois. Je vous vois rire, je vous vois déjà rire Charles. Contrairement à Julien, qui a peut-être un peu plus de talent, lui il a 21 ans, il vit à Pusignan, en banlieue lyonnaise. En août dernier, il obtient son permis de conduire du premier coup. Bon, là il se dit que le plus dur est derrière lui. Eh bien pas du tout, 8 mois plus tard, il ne l'a toujours pas reçu.
J'ai l'attestation provisoire une fois qu'on passe le permis de conduire, mais elle a fini d'être valide fin décembre. Ce qui fait que depuis le début du mois de janvier, j'ai pas de permis de conduire alors que j'ai besoin de mon véhicule. Pour aller en cours, j'ai besoin pour aller travailler, pour mes déplacements du quotidien. Bon, heureusement, je me suis pas encore fait arrêter.
La NTS, l'agence des titres sécurisés, l'informe que la Poste a perdu le courrier recommandé et lui envoie un simple mail pour unique preuve qu'il a bien son permis. Vous savez, c'est un mail comme ça, s'il est arrêté, il peut le montrer aux forces de l'ordre. Mais ça reste pas très rassurant, hein. Surtout que la loi est claire, en cas de contrôle routier, on doit montrer son permis, sinon on risque une amende de 11 à 38 euros et même jusqu'à 750 euros si on ne présente pas notre titre sous 5 jours dans un commissariat ou une gendarmerie.
Mais Guillemette, admettons là, le courrier s'est perdu en route, mais ça fait donc 8 mois que Julien a réussi son permis. La NTS, là, l'agence des titres sécurisés, avait quand même le temps de lui renvoyer un permis, non?
Oui, mais la NTS mène d'abord une enquête postale. En fait, il existe un entrepôt des plis égarés situé à Libourne, en Gironde. Les postiers y traitent 20 000 dossiers chaque jour. Mais ça, c'est plutôt pour des problèmes d'adresse mal rédigés, par exemple. À ce jour, l'enquête sur le permis de Julien n'a toujours rien donné. Et dans ce laps de temps, l'agence ne délivre pas de nouveaux titres.
Oui, mais ça peut durer combien de temps, là, cette enquête? Julien, il va devoir rouler combien de temps avant de recevoir son véritable permis?
Plus très longtemps, on l'espère, grâce à notre intervention. Moi, j'ai demandé des comptes aux services concernés et Julien a reçu un mail de la Poste vendredi dernier, puis un coup de fil dans la foulée de la NTS. Une demande spéciale perte a été faite et sera traitée en priorité. Le papier rose, enfin la carte rose, hein, désormais, ne devrait plus tarder. Vous nous connaissez, on y verra.
Et on compte sur vous, évidemment, pour poursuivre ce dossier. On sait que vous ne lâcherez rien pour Julien et pour tous les autres. D'ailleurs, on rappelle l'adresse pour vous contacter, comme l'a fait Julien. C'est une adresse mail rmcavecvous@rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
On se taira pas, même s'ils veulent que qu'on arrête en fait, parce que le génocide il est loin d'être fini, la colonisation elle est loin d'être finie aussi. Donc par rapport à ça, on va continuer. Il y a le 1er mai où en fait on va appeler à faire des cortèges en soutien à la Palestine au sein de la fête des travailleurs, parce que c'est aussi ensemble en fait qu'on peut imposer au gouvernement d'arrêter en fait d'être complice du génocide et de la colonisation.
Après Sciences Po Paris la semaine dernière, des manifestants pro-palestiniens ont tenté hier d'occuper la fac de la Sorbonne à Paris. Une soixantaine de personnes ont tenté d'installer des tentes, de déployer des banderoles dans la cour d'honneur.
Ouais, mais les forces de l'ordre sont intervenues rapidement à la demande de Gabriel Attal. Les manifestants ont été évacués par les CRS. Il n'y a pas eu d'interpellation. Aujourd'hui, d'autres rassemblements sont prévus sur les campus lyonnais et à Reims.
Alors, faut-il s'inquiéter de cette importation du conflit dans les facs? Faut-il interdire, empêcher les mobilisations et les blocages de manifestants pro-palestiniens? Est-ce que ça vous choque, hein, ces images? Alors, il y a l'image de la police qui rentre dans une fac, hein, ça en choque certains, et puis évidemment certains slogans, certains gestes vus dans ces manifestations qui sont clairement à caractère antisémite pour certains. En tout cas, certains auraient tendance à nier l'existence de l'État d'Israël. Ça choque particulièrement. Est-ce que la politique a sa place aussi, hein, dans les facs? On peut se poser la question ce matin. Justement, on va la poser à Vincent qui nous appelle de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Salut Vincent.
Bonjour Charles et bonjour Géraldine.
Bonjour Vincent.
Vincent, prof, c'est ça justement?
Oui, prof de maths au collège. Alors, pour moi, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac, la politique n'a pas sa place dans l'enseignement. Et en aucun cas, c'est vrai que, comme vous avez dit dans votre reportage, c'est totalement illégal de bloquer, d'empêcher des étudiants d'aller travailler, quoi.
Oui, de bloquer l'entrée, d'empêcher l'accès aux cours. En effet, c'est illégal. Après, Vincent, je suis assez d'accord avec vous. Au collège, au lycée, là, on parle d'adultes. On parle typiquement à Sciences Po Paris.
Oui, Sciences Po, c'est science politique, hein.
Qu'on n'y fasse pas de politique et qu'on n'y manifeste pas, bon, c'est discutable, Vincent. Non, je comprends qu'au collège ou au lycée, il n'y avait pas de politique et pas de blocage ou de manifestation. Est-ce que des étudiants, enfin, il y a presque une tradition en France d'étudiants, je ne vais pas vous ramener à mai 68, hein, Vincent, on n'était pas nés, ni vous ni nous, mais est-ce que voilà, des étudiants qui manifestent, ça vous choque?
Moi, ce qui me choque, c'est que ça empêche des étudiants d'aller étudier, quoi, justement.
Alors, on leur dit, si vous voulez manifester, vous faites ça en dehors de la fac, dehors de Sciences Po, vous allez dans la rue, vous organisez un rassemblement, une manifestation, mais pas question de bloquer l'enseignement, c'est ça, Vincent?
Tout à fait.
Mais ça aurait beaucoup moins d'impact, on n'en parlerait pas, clairement.
Oui, oui, après, bon, moi, j'ai fait des études de mathématiques, donc c'est vrai que ça s'est carré. Mmh. Et on avait, justement, pas du tout politisé.
Oui.
Donc peut-être que je suis mal placé pour en parler, mais en tout cas, c'est mon avis.
Ah bah non, c'est intéressant, justement, de vous entendre. Vincent, bougez pas, il y a Kamel qui nous appelle aussi, on remonte un peu vers Paris, on est du côté du Val d'Oise, même, avec Kamel. Bonjour Kamel.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ah bah nous, ça va très bien, et vous Kamel?
Bah, très bien, ça rentre du boulot.
Ça rentre du boulot pour Kamel. Bah, voilà, c'est l'heure à laquelle on se croise entre les courageux de la nuit et ceux qui se lèvent tôt, comme Vincent, notre prof de maths. Alors, Kamel, qu'est-ce que vous en dites, vous, quand vous entendez Vincent qui dit attendez, on est à la fac, on y va pour étudier, pas pour bloquer ou manifester?
Moi, je suis assez d'accord avec Géraldine, hein, sur le principe. C'est Sciences Po, donc ils font de la politique, donc on peut pas leur apprendre et. Tous les jours, les lois internationales, nationales, et quand ils jugent que pour eux il y a un problème au niveau de la politique internationale et qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Donc pour moi, ils ont totalement le droit de manifester.
Ils mettent en pratique. Quoi.
Oh, oui, mais c'est pas pareil manifester. Exactement. C'est pas pareil manifester et bloquer Kamel. Là, quand on a conscience d'étudiants de Sciences Po qui empêche 20 000 autres d'aller en cours, c'est un problème.
Mais après, c'est entre guillemets, c'est le jeu. Le fait de bloquer, ça passe à la télé, sachant que, on va dire, à 80%, les médias sont contre le fait que les gens manifestent pour la Palestine, bah, automatiquement, ça pousse les gens à aller un peu plus loin que les lois, on va dire, entre guillemets. Et donc, ce qui amène à, bah, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi, voir les choses en face, et quand on regarde la télé, on peut regarder peu importe n'importe quelle chaîne, bah, personne n'est...
Kamel, là,
beaucoup de médias sont pour les manifestations à la Palestine.
Oui, mais ce qu'il y a... Bon, on n'a pas été... pour ou contre des manifestations. Là, le débat justement, c'est est-ce qu'elles ont leur place dans les facs, et surtout est-ce que ce conflit israélo-palestinien qui se passe à des milliers de kilomètres, est-ce qu'il faut l'importer dans les facs, avoir des débats, des discussions, pourquoi pas des manifestations, des mobilisations. Là, on parle de blocage clairement, hein, d'installations mais Kamel, j'aimerais aussi qu'on entende Vincent, parce que Vincent, vous êtes prof en collège, c'est ça, Vincent. Là, on parle des facs, mais est-ce que vous constatez, est-ce que vous entendez parler dans vos élèves, je sais pas, dans la cour de récré, est-ce que ce conflit s'invite aussi dans les collèges ou les lycées en France?
Non. Souvent, c'est vrai, c'est assez indéniable, mais je trouve que les élèves actuellement au collège, ils sont pas du tout.
C'est clairement du côté des facs, et puis et certains.
Côté du lycée.
Ouais, peut-être dans les lycées un peu plus aussi, mais certains dénoncent aussi une forme d'instrumentalisation. On sait que la France Insoumise, par exemple, fait des rassemblements, des meetings dans les facs, incite les étudiants à bloquer. Ça, Kamel, ça vous interpelle pas, le côté récupération politique de toutes ces mobilisations?
Non, du tout, parce que je pense que tout ce qui peut aider, parce qu'on est quand même à plus de 30 000 morts, il y a, je sais pas combien de, peut-être 15 000 ou 20 000 enfants et femmes qui sont morts, qu'on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Et le monde entier le voit. Il y a des manifestations dans le monde entier, dans les facs pratiquement du monde entier, et des manifestations de nombre.
Oui, mais des manifestations, le conflit maintenant, mais Kamel, des manifestations qui donnent lieu aussi à des dérives. Il y a des slogans clairement antisémites sur les campus américains, et aujourd'hui on entend ces étudiants en France qui disent on veut s'inspirer de ce qui se passe sur les campus américains. D'où l'inquiétude d'une dérive, d'une radicalisation de certains, d'une récupération politique aussi. Bon, en tout cas, je vous remercie Vincent et Kamel d'être venus en parler. Ça va être très intéressant d'entendre Louis Boyard, l'un de ces députés justement insoumis, qui s'est rendu à Sciences Po, à la Sorbonne, incite les étudiants de France à se mobiliser et à bloquer. Et ben, il sera face à Apolline tout à l'heure. Ne manquez pas le rendez-vous à 8h30. Ça sera tout à l'heure, évidemment, sur RMC et BFM TV en direct. Et puis, tiens, je vous signale que dans moins d'une heure, là, dès 6h, je vais recevoir aussi un étudiant, un représentant des étudiants. Mais alors, lui, de l'autre côté, qui dénonce ces blocages, le représentant de l'UNI, syndicat étudiant classé plutôt à droite, qui lui est scandalisé. Et scandalisé aussi, du laxisme de la part des directions de fac, de la direction de Sciences Po, de la part du gouvernement. Il viendra nous le dire tout à l'heure à 6h10, mais vous aussi au 32-16 ce matin, vous prenez la parole comme Vincent et Kamel. On vous souhaite bonne journée, bon courage pour le boulot pour Vincent, bonne nuit pour Kamel. On a bien compris que vous vous croisiez les courageux de la nuit et du matin à cette heure-ci, à 5h24 sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, votre journal de 5h30 qui approche avec à la une, tiens, les toutes dernières infos sur la possible réouverture partielle de l'autoroute A13. On parle déjà du 11 mai prochain. Vous aurez tous les détails dès 5h30. Et puis ensuite, il y aura la bande qui va nous rejoindre. Tiens, avec Jordan Olivier dans la Story Sport, on va s'intéresser à Mike Maignan, le gardien des Bleus, blessé à 6 semaines de l'Euro. Là aussi, vous saurez tout. Anthony Morel en mode Top Chef. Ce matin, il va nous faire goûter le poisson du futur. Du poisson sans poisson. Mais tout de suite, la solution conso, l'astuce pouvoir d'achat avec Géraldine.
Payer moins cher son frigo, c'est tout de suite.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h26, vous êtes bien sur RMC. Et comme chaque matin, Géraldine s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Ta solution conso ce matin, Géraldine, c'est très simple. Tu nous promets de payer moins cher notre frigo.
Mais oui, avec les magasins discount qui marchent de plus en plus, on le voit avec Action, un magasin préféré des Français, et ça marche donc oui aussi pour l'électroménager. C'est vrai que quand le frigo lâche, ça représente un très gros budget pour le remplacer.
Ah oui, c'est coup dur.
Ah ouais, c'est une dépense qui est indispensable, souvent imprévue aussi, et donc le discount s'impose de plus en plus comme la solution pour faire baisser la facture. Et c'est vrai qu'on peut trouver de l'électroménager neuf jusqu'à 60% moins cher que dans un magasin classique. C'est quand même une sacrée économie. Alors pour arriver à faire autant baisser les prix, ça se passe tout d'abord au niveau des coûts. C'est un magasin qui va plus ressembler à un entrepôt avec des palettes empilées sur la hauteur. Très peu d'employés, en moyenne moitié moins que dans une grande enseigne. Très peu de dépenses marketing aussi, puisque le prix suffit finalement comme seul argument. Et oui, vous allez vraiment trouver un appareil à petit prix. Attention quand même, parce que dès que vous allez vouloir ajouter un service, c'est là que ça va vous coûter cher. La livraison devant chez vous, dans la pièce de votre choix, l'installation. C'est surtout ces petits à côté que l'enseigne va gagner de l'argent. Alors c'est le principe du low cost, un prix de base très bas, mais qui peut vite gonfler avec les à côté.
Oui, mais j'ai compris, c'est vraiment pas cher. En revanche, est-ce que la qualité est au rendez-vous?
Alors, vous pouvez trouver des grandes marques à petit prix. Généralement, ça va être des modèles des années précédentes qui sont pas bien vendus, ou des modèles avec un petit défaut esthétique, parfois des modèles d'exposition. Là, au niveau de la qualité, c'est exactement la même chose que dans un magasin classique. Lorsqu'il s'agit de la propre marque du magasin, il faut faire un petit peu plus attention. Clairement, on est sur du made in China, avec la volonté de tirer au maximum les prix vers le bas, parfois au détriment de la qualité. Donc, regardez bien les différentes étiquettes, l'étiquette énergie qui va vous dire si le produit est énergivore ou pas, l'indice de réparabilité qui va vous indiquer si vous pourrez facilement réparer votre machine et trouver des pièces de rechange, et puis même s'il ne faut pas s'y fier à 100%, un petit coup d'œil quand même sur les avis internet. Autant les avis positifs ne veulent pas forcément dire que le produit est bien, autant s'il y a beaucoup d'avis négatifs, là ça doit quand même vraiment vous alerter.
Oui, et puis surveillez aussi la garantie, hein, si vous prenez un petit risque en tentant un prix discount, etc. N'hésitez pas aussi à bien vérifier la garantie. Bref, les bons conseils de Géraldine, parce qu'au final on peut faire de très belles économies.
Oui, sur le discount, ça peut être une vraie bonne chose pour faire baisser le prix.
Mais en prenant le temps de bien tout lire, si j'ai bien compris, toutes les étiquettes et toutes les petites notes en bas de page. C'était la solution conso à retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et tout de suite, on se fait plaisir avec le meilleur d'Arnaud Demange. Tiens, Arnaud qui nous a parlé hier de ce séisme dans le monde de la télé. Cyril Ferraud ne présentera plus l'émission Slam.
Alors, qui va remplacer Cyril Ferraud? Il faut quelqu'un qui fasse fantasmer les vieilles dames. Il doit y avoir un casting à France 3 en ce moment. Alors, monsieur, présentez-vous, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Alain, je viens de Bordeaux. J'ai toujours eu du succès auprès des femmes nées en 1937 et autour. Je suis un peu le Johnny Hallyday inversé. Les gens m'appellent l'idole des vieilles. Ça, les Madeleine, les Yvonne, les Monique, les Martine et les Claudine. Vous savez, si elles ont des problèmes de hanche aujourd'hui, j'y suis pas totalement étranger.
Et on retrouve Arnaud et peut-être Alain Juppé tout à l'heure en direct, évidemment, dans Apolline Matin. RMC 5h30.
RMC, Charles Matin.
Bon réveil à tous, bon courage. Si vous êtes déjà peut-être au travail, peut-être sur la route, on est tous ensemble le matin pour toute l'info en direct, votre journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La 13 pourra rouvrir le 11 mai prochain en direction de Paris pour les véhicules légers si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Mathilde Panot, convoquée ce matin pour apologie du terrorisme, elle dénonce une attaque à la liberté d'expression et appelle à un rassemblement. Et puis la pluie, de retour enfin sur les Pyrénées-Orientales, une bonne nouvelle dans ce département, mais insuffisant pour enrayer la sécheresse.
Fermé depuis le 19 avril, on connaît la possible date de réouverture de l'autoroute A13.
Et ce sera le 11 mai prochain, échéance fixée par la préfecture des Hauts-de-Seine hier. Si et seulement si les conditions de sécurité sont réunies, seuls les véhicules légers seront concernés. En direction de Paris uniquement, un tronçon fermé en raison de fissures apparues sur les voies. Conséquence probable, Alfred Orange, de travaux qui longent les voies de cette portion d'autoroute entre Vaucresson et Paris.
Oui, d'après nos confrères du Canard Enchaîné, c'est en fait le chantier du futur musée du Grand Siècle de Saint-Cloud accolé à l'autoroute qui serait à l'origine du sinistre. Ces travaux auraient provoqué un mouvement de terrain déplaçant un gigantesque mur soutenant le viaduc de la 13. Tout serait en fait partie de la construction du parking souterrain du musée réclamé à l'époque par le président du conseil départemental. L'ouvrage a obligé à creuser le sol et l'a donc fait bouger. Résultat, le mur s'est déplacé de 6 cm. Provoquant de grosses fissures sur la chaussée. Depuis, les autorités ont ordonné le remblaiement du chantier du parking et des capteurs de mouvement ont été placés sur le mur. Mais il a continué de bouger ces derniers jours, repoussant à chaque fois la réouverture de l'autoroute.
Et pour prendre l'autoroute, il faut du carburant, un plein qui peut coûter cher. Les prix à la pompe continuent de grimper, compter 2 euros en moyenne. Le prix du litre sans plomb 98 hier, selon le comparateur de prix carbu.com. Un coup au portefeuille qui fait mal avant le début des ponts de mai. Le reportage à Bordeaux de Pierre Bourgès.
Avant de mettre de l'essence dans leur voiture, ces automobilistes ont bien remarqué la récente hausse des prix.
19 litres, 40 euros. Puis sans plan 98, on est passé au-dessus de 2 euros. Ça fait mal.
Ça commence à peser quand on fait un plein, ça chiffre vite.
2,39 €, c'est hors de prix quoi. On partira pas beaucoup, hein, c'est sûr.
Chantal voudrait profiter des jours fériés de mai avec ses petits-enfants, les emmener en vacances hors de Bordeaux, mais avec de l'essence aussi chère.
On partira autour de Bordeaux et pas loin. Faire un petit tour, mais pas plus.
Faire faire des concessions pour ses vacances. Laurent y réfléchit aussi. Il part en Corse en voiture, mais une fois arrivé à l'hôtel, il veut limiter les déplacements.
On visitera moins loin. Ce sera beaucoup de marches et puis on va adapter, on va dire, nos vacances.
Vacances adaptées, mais vacances quand même. Jean-Baptiste, lui, n'a pas cette chance. Le prix de l'essence, c'est une des raisons pour lesquelles il reste à Bordeaux.
J'ai beaucoup de famille à Strasbourg. Et je voulais aller là-bas et je me suis dit, déjà, je ne vais pas pouvoir y aller en voiture, alors qu'avant, j'y allais en voiture tranquillement. Ça me fend le cœur, quoi.
D'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, le samplon 98 a augmenté de plus de 10 centimes par litre depuis début 2024.
Il est 5h33, vous êtes sur RMC. Un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour meurtre 2 jours après la mort de Mathis à Châteauroux. Le suspect a été placé en détention provisoire hier soir. Sa mère, elle aussi, mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable à l'origine du drame. Une altercation et des insultes entre les deux garçons. Information que vous révélez RMC hier après-midi. Un procès pour Gérard Depardieu, déjà mis en examen pour viol. L'acteur sera jugé en octobre pour agression sexuelle sur 2 femmes, membres de l'équipe de tournage du film Les Volets Verts. C'était en 2021. De nouveau, pour parler au Caire, laisse entrevoir l'espoir d'une trêve entre le Hamas et Israël. Une nouvelle proposition de cesser le feu dans la bande de Gaza a été présentée au Hamas hier, associée à une libération d'otages. C'est dans ce contexte que les insoumis sont appelés à s'expliquer ce mardi. Mathilde Panot et Rima Hassan sont convoqués en audition libre à 8h30 ce matin par la Direction nationale de la police judiciaire. On leur reproche, Cyprien Pézril, des prises de position distinctes, des faits d'apologie publique et d'actes de terrorisme.
L'une est convoquée pour une série de tweets, l'autre pour le communiqué du groupe Insoumis. Le jour des attaques du Hamas, Rima Hassan, figure de la cause palestinienne, candidate aux européennes, et Mathilde Panot, à la tête du groupe Insoumis, ont accepté de se rendre à ces auditions libres. Toutes deux assurent qu'elles font suite à des plaintes d'associations proches du pouvoir israélien. Des convocations pour apologie du terrorisme qui ne présagent pas d'éventuelles poursuites judiciaires à l'issue. Qu'importe ce que décidera la justice, ça crée un précédent dangereux, s'insurge un Insoumis, alors que le camp mélenchoniste dénonce, je cite, une criminalisation des voix pro-palestiniennes. Si l'indignation insoumise est réelle, il y a aussi une part de victimisation, dénonce un élu de gauche. Ça nous permet de mobiliser, reconnaît un proche de Jean-Luc Mélenchon, qui participera comme d'autres à un rassemblement de soutien ce matin.
Un nouveau rassemblement pro-palestinien hier sur la place de la Sorbonne à proximité du bâtiment. 200 personnes ont manifesté. Une 60aine d'entre eux ont investi la cour d'honneur de l'université avant d'être délogés par les autorités sans interpellation. Une circulaire pénale visant à appliquer une circonstance aggravante pour précepte religieux a été diffusée hier soir aux juridictions. Une réponse de l'exécutif pour répondre à la violence autour des établissements scolaires. Nicolas Robert.
La circulaire recommande au procureur de la République de poursuivre avec un caractère aggravant les faits commis en raison de la mauvaise ou de la non-pratique religieuse. Sans les citer, le ministre de la Justice réagit aux récentes violences entre jeunes, par exemple en Alsace, où une ado a été prise à partie car elle ne respectait pas le ramadan, ou en Isère, où un lycéen a été frappé car il aurait embrassé sa petite amie sur la bouche en public. Pas besoin d'une nouvelle loi, fait savoir l'entourage d'Éric Dupond-Moretti. Cette circulaire doit permettre aux juridictions de sanctionner ces types de comportements comme les actes commis en raison de l'appartenance religieuse. Pour tenter de dissuader les auteurs de ce type de violence, la chancellerie demande aussi au parquet une réponse pénale ferme et rapide. Pour gagner en efficacité, les procureurs sont aussi incités à dialoguer davantage avec les acteurs locaux, associatif ou religieux.
Sécurité renforcée près des églises à l'approche des fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, demande de Gérald Darmanin au préfet hier en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. L'été sera chaud. Dans son bulletin de tendance pour les 3 mois à venir, Météo France dit s'attendre à de fortes chaleurs. L'organisme estime à 70% les chances que le mercure dépasse les normales de saison autour de la Méditerranée. En attendant, la pluie était de retour la semaine dernière dans les Pyrénées-Orientales, inespérée dans ce département où la sécheresse perdure depuis 2 ans. Cassandre Brault.
Dans son jardin sous la pluie, Michel a le sourire aux lèvres.
Mon récupérateur est plein parce que quand je tape, je sais qu'il est rempli complètement.
Des mois que cet habitant d'Elne attendait la pluie.
Comme j'ai quelques petites fleurs et puis mes légumes, tout ça, ça va m'aider à arroser.
Et il n'est pas le seul.
Là, c'est un regain d'espoir aussi pour la nature, pour tout. Hein.
Denis Basserie, arboriculteur dans la région, regarde avec optimisme sa seule parcelle d'abricotier qui a survécu à la sécheresse des derniers mois.
Quand on regarde même au sol, là, l'herbe était jaune. Hein. C'est la vie un peu de tous les végétaux. C'est la vie de toute l'activité économique de ce département qui est quand même liée avec l'eau. Hein. C'est sûr que ça nous donne un espoir. Hein.
Mais ces précipitations ne vont pas suffire pour changer l'état des nappes d'eau souterraines, selon Patrick Lachassagne, hydrogéologue.
Ce ne sont pas les pluies de ces derniers jours qui vont inverser la tendance. Ces sols, une fois mouillés, la végétation, dans les jours qui vont suivre, va consommer l'eau qui aura mouillé ces sols, en fait. Et donc, il n'y aura pas d'eau qui va continuer son chemin plus bas, notamment vers les nappes d'eau souterraine.
Actuellement, le niveau des nappes de l'ouest du pourtour méditerranéen est jugé très inquiétant, niveau aujourd'hui encore plus bas qu'en mars 2023.
Bayern, Real, c'est le choc à vivre sur AMC, RMC Sport 1. Ce soir, 21h, première demi-finale de Ligue des Champions. Avant le déplacement très attendu demain soir du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Borussia Dortmund.
Très attendu.
Vous avez hâte, Charles.
Ouais. Vous aussi, Thibaut.
Jeudi soir.
Avec l'OM. Face à la Penta Bergam. Ça aussi, on vivra sur AMC.
Et oui. Éco-gestes, fast fashion ou encore méga bassine, ce sont trois des 150 nouveaux mots du Larousse 2025. Des mots et des noms aussi. 40 personnalités font leur entrée dans l'édition des noms propres. Parmi eux, Omar Sy. D'abord auteur et interprète de sketchs comiques à la télévision, il s'affirme ensuite comme un acteur au jeu puissant, peut-on lire dans la description. On retrouve aussi Virginie Efira, auteur de la saga Game of Thrones ou encore Beyoncé. Du côté des sportifs, on retrouve Antoine Dupont, le basketteur LeBron James, et puis Antoine Griezmann qu'on retrouvera à l'Euro cet été.
Il fait son entrée dans le Larousse. Ah, bientôt Thibaut Texer, c'est sûr.
Au fou,
c'est notre objectif pour le Larousse 2026.
Ils ont mis du temps quand même pour mettre Omar Sy.
Oui, un peu tard le Larousse là. On peut leur souffler des nouveaux noms.
Charles Magnin, Géraldine Demory.
Oui, voilà, Géraldine.
Apolline de Malherbe.
Apolline, évidemment, dans le Larousse, ce sera aussi notre combat. Je sens qu'elle nous écoute.
Elle y sera un jour.
Apolline, elle y sera très bientôt même, j'en suis sûr. Il est 5h39 sur RMC. C'était le journal de Thibaut Texer. Tiens, on va aller faire un tour sur l'appli RMC, sur Direct Studio, lire les messages des leftos avec Géraldine.
Et il y a beaucoup de réactions au blocage de fac par des manifestants pro-palestiniens. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas tous d'accord. Pour Samy, les étudiants ont le droit de bloquer. Après tout, quand la SNCF fait grève, ils nous empêchent bien de nous déplacer. Pour Philippe, ce ne sont pas des étudiants, mais des hurluberlus qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Antonin nous dit oui, c'est choquant. Il faudrait virer ces personnes des facultés, que tout le monde retourne aux études et au travail. La France ira beaucoup mieux.
Ah bah ce débat, on va continuer à l'avoir. On sent que ça vous fait réagir sur Direct Studio, mais aussi au 32-16. Vous n'hésitez pas à venir en direct sur RMC. Et puis vous n'oubliez pas que le matin, on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh bien, tous les matins, on vous gâte, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à une question d'actu.
Quelle université parisienne, justement, a été bloquée hier par des manifestants pro-palestiniens ?
Oui, il y a eu Sciences Po la semaine dernière, mais hier, c'est donc une autre fac du côté du Panthéon. Bon, je donne trop d'indices, là.
Non, vous ne donnez pas trop d'indices.
Allez, si vous avez la bonne réponse,
on en a beaucoup parlé.
Vous envoyez actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner le super radio réveil de la marque Muse pour ne pas rater le début de Charles Matin.
Évidemment, vous serez en direct avec nous tout à l'heure à 6h20. On vous offrira aussi la coque pour smartphone. Allez, je vous le dis en secret. On va doubler la mise. On va vous offrir un deuxième cadeau tout à l'heure. Si vous jouez tout de suite, vous envoyez actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS. Maxi. Les indiscrets RMC.
Oui, chaque matin, les coulisses de l'actu, on retrouve Hélène Terzian du service politique ce matin. Bonjour Hélène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Alors Hélène, vous révéliez hier matin que Gabriel Attal acceptait de débattre avec Jordan Bardella. Le Premier ministre veut entrer de plein pied dans la campagne des européennes pour contrer le RN.
Oui, Gabriel Attal veut mettre Jordan Bardella face à ses responsabilités. C'est ce qu'il a expliqué hier face à quelques membres du gouvernement. Le déclic, d'après un ministre, les dérobades à répétition de la tête de liste du RN aux européennes, ses refus de participer à trois débats. Il serait temps que la supercherie s'arrête, confie un cadre macroniste. Attaquer le RN, certes, montrer qu'il mouille la chemise aussi. Il ne veut pas donner l'impression qu'il se planque, lâche un conseiller de l'exécutif. Action, réaction, c'est même le président qui lui a demandé de s'impliquer dans la campagne, confie un poids lourd de la Macronie. Gabriel Attal construit son parcours politique, certes, mais il est rattrapé au col. En somme, lui aussi portera le chapeau si le score de Valérie Ayé à la traîne dans les sondages est mauvais. Chez les macronistes, aucun doute sur cette confrontation. Il va le pulvériser, lâche une ancienne ministre. Même pas peur, répond le camp d'en face. Qu'il vienne le chercher, tense le directeur de campagne de Jordan Bardella. Pour un stratège du RN, c'est l'ultime force de réserve, mais pas sûr que ça suffise. Même un député de la majorité redoute un effet contre-productif. Pas sûr, selon lui, que ça mette la candidate Valérie Ayé dans les meilleures conditions. Car avant le duel Attal-Bardella, c'est elle qui débattra jeudi soir avec la tête de liste du RN.
Indiscret signé Hélène Terzian. Merci Hélène du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Il est 6h20 et ça y est, toute votre bande est là, l'équipe du matin prête à vous réveiller avec plein d'infos. On va parler sport avec Jordan Olivier.
Bonjour Charles, dans la story aujourd'hui effectivement on parle de Mike Maignan, le gardien des Bleus. Il est encore blessé, on va le voir s'il faut s'inquiéter pour l'Euro.
On va passer à table avec Anthony Morel.
Vraie chronique gastronomique, enfin encore que. Vous aimez la viande végétale les amis, vous avez testé ça ou pas?
Ouais, j'ai testé.
T'aimes bien?
Ça va ouais.
Et le poisson végétal, est-ce que t'as testé?
Pas encore.
J'ai testé pour vous.
Le poisson sans poisson.
Le poisson sans poisson.
Dans un instant avec Anthony, et puis il y aura ton bonus, Géraldine.
Moi, je vais vous faire chanter avec la musique française qui cartonne à l'étranger.
Et puis ces blocages de fac par des manifestants pro-palestiniens, ça fait réagir Ronan au 32-16. Ronan est étudiant, justement, il témoigne tout de suite sur RMC.
RMC, Charles Matin,
Charles Magnin.
Et à 5h43, votre Mandela, le sport avec Jordan Olivier et des nouvelles de Mike Maignan dans un instant, Anthony Morel et son poisson sans poisson. Géraldine Demory qui va nous faire écouter tiens, les meilleures musiques made in France qui s'exportent le mieux, c'est ça, notre savoir-faire français qui cartonne dans le monde entier. Mais tout de suite, on va accueillir Ronan au 32-16. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Salut Ronan. Salut Ronan.
Alors Ronan, étudiant, c'est ça, en Loire-Atlantique?
Oui, c'est ça, je suis étudiant en L3 à droit.
Alors je traduis, L3 c'est licence 3 hein, pour les vieux comme moi qui ont cette troisième année de licence, c'est ça pour
c'est ceux ça. Qu'on...
Oui, moi j'ai connu le Doug, vous savez, je suis un peu vieux. Oui, de bon temps, il y avait encore un Doug. Ronan, étudiant en troisième année de droit. Et d'abord, qu'est-ce que vous faites rêver de si bonne heure? Je suis désolé Ronan, mais à 5h44, je suis pas sûr que tous les étudiants
bosse,
soient
Ronan.
À vous bosser aussi hein, à côté? Non, je sais pas si vous révisez à cette heure-ci Ronan.
Non, je bosse là, j'ai un CDI de chauffeur-livreur et puis j'ai fait ma licence en bossant tous les samedis pour payer mes études.
Ah,
et
ouais.
Quand je vois que certains étudiants se permettent de faire des manifestations, moi c'est le genre de choses qui m'énervent.
Ah, racontez-nous tiens, alors dans votre fac, est-ce qu'elle est concernée là? On nous parle de Lyon et de Reims où il y a des appels à la mobilisation aujourd'hui, après la Sorbonne à Paris hier. Est-ce que dans Loire-Atlantique, vous entendez déjà parler de mobilisation sur les campus?
Ça en a parlé, mais du moins moi je suis à l'université privée. J'y suis allé justement après une année dans le public où justement il y avait ces problèmes de blocage de fac et de politisation, notamment d'extrême gauche. Et c'était très désagréable. Et maintenant je suis très heureux dans le privé, tout s'y passe bien.
Parce que justement vous considérez qu'à la fac on n'a pas à se politiser, à manifester, à se mobiliser?
Non, c'est pas la fac n'est pas un lieu pour ça. La fac n'a pas à construire, à suivre des politiques, notamment celle de la France insoumise, parce que en l'espèce c'est le cas, hein, faut pas se voiler la face. Et les étudiants, enfin, surtout sur ce sujet, encore s'il s'agissait, je prends l'exemple de la plateforme Mon Master. Bon, s'il y a une réforme, je comprends que les étudiants puissent manifester. Il y a un lien avec les études. Mais alors là, franchement, le débat Israël-Palestine, qu'il soit loin des facs, il l'est et ça n'a pas...
Oui, quand je l'entends, oui, s'ils veulent manifester et se mobiliser, qu'ils le fassent en dehors, dans la rue, qu'ils organisent des rassemblements, etc.
Mais exactement.
Pas, mais pas bloquer leur fac. Bougez pas, Ronan, parce que je vois que ça fait aussi réagir Samy qui nous appelle d'Annecy. Bonjour Samy.
Oui, bonjour.
Salut Samy, le veto pour le boulot?
Ah oui, toujours.
Toujours, le veto.
Et toujours à votre écoute.
Installateur. Alors, il y a écrit installateur régleur sur votre fiche. Alors, il faut me traduire ce boulot. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Opérateur régleur, je règle des machines d'usinage.
Ok, de l'usinage. Donc, c'est grâce à vous que ça tourne dans les usines, si je comprends bien, Samy.
Voilà.
Et alors, ça vous fait réagir aussi. Est-ce que vous comprenez ces étudiants qui se mobilisent et qui bloquent leur propre fac?
Bah oui, c'est comme la SNCF quand ils manifestent ou quand ils font grève, ils nous bloquent aussi.
Oui.
Donc ça me choque pas qu'ils bloquent leur université.
Oui, mais Samy, ce que disait Ronan à l'instant, c'est la SNCF typiquement, ils bloquent quand ça les concerne directement, quand c'est une réforme qui les touche directement. Ronan disait oui, s'il y avait une réforme des universités, quelque chose qui touche à l'enseignement, pourquoi pas avoir des mobilisations dans les facs. Mais là, bloquer sa fac pour un conflit qui se passe à l'étranger, etc. C'est vous voyez ce que je veux dire, c'est une minorité là.
Oui.
Mais, qui empêche les autres d'étudier.
Oui, bien sûr. Mais après, on condamne tout ce qu'a fait le Hamas. Moi, je les condamne. Je suis contre les actes terroristes. Mais après, je pense que de voir le peuple palestinien souffrir ainsi, alors qu'ils n'ont rien demandé, ça touche tout le monde. On ne peut pas être indifférent, même si ça se passe à l'autre bout du monde.
Bien sûr, personne ne dit qu'il faut être indifférent, évidemment, au sort des Gazaouis. Samy, là, maintenant, ce qui fait débat ce matin, c'est la forme de cette mobilisation, les dérives aussi constatées parfois dans les slogans, dans les images, dans les pancartes, etc., qu'on a pu voir lors de ces mobilisations. Et puis, le lieu, c'est pas anodin que ces facs françaises, on s'inquiète d'une dérive à l'américaine. On a vu l'exemple des campus américains. C'est ça qui inquiète aujourd'hui. Vous entendez Ronan qui dit, moi, je veux aller à la fac et étudier. Tout simplement, pas être bloqué.
Ouais, je comprends, je conçois, mais après, voilà, c'est Sciences Po. Sciences Po, il faut de la politique. De la politique, ouais. Hein, il faut pas de la pâtisserie. Hein.
Oui, mais c'était Sciences Po la semaine dernière. Hier, ça a été la Sorbonne évacuée par la police. Aujourd'hui, on annonce Lyon et Reims. C'est tout le débat. Est-ce qu'il faut empêcher, interdire ces mobilisations et ces blocages d'étudiants sur leur campus? On va continuer à en débattre ce matin, évidemment, avec tous vos témoignages. Tiens, notez bien que, eh bien, justement, vous parliez, Ronan, d'instrumentalisation politique de la part de la France Insoumise. Eh bien, notez bien que Louis Boyard, le député LFI, sera tout à l'heure dans le face-à-face, face à Apolline à 8h30 sur RMC et BFM TV. Il fait partie justement de ces députés qui incitent, qui appellent les étudiants à se mobiliser et à bloquer. Il répondra à toutes les questions tout à l'heure. Et puis, on aura un représentant des étudiants, mais alors du syndicat classé à droite, l'UNI. Le représentant national de l'UNI sera avec moi là dans moins d'une demi-heure maintenant à 6h10 en direct sur RMC. Et puis, Ronan et Samy, bah, puisque vous êtes là tous les deux, restez avec nous autour de la table. On a plein d'infos à partager avec vous. Je sais que si vous écoutez RMC, Samy et Ronan, c'est que vous attendez impatiemment l'Euro de foot. Ça a prochain, on en parle pas forcément tous les jours, mais c'est dans à peine plus d'un mois l'Euro en Allemagne et une inquiétude, Jordan, pour l'équipe de France. Mike Maignan, l'incroyable gardien de but de l'équipe de France, à nouveau blessé, à deux semaines d'ailleurs de l'annonce de la liste de Didier Deschamps.
Oui, la nouvelle est tombée hier dans un communiqué de son club, l'AC Milan. L'IRM réalisé ce jour a mis en évidence une lésion du long adducteur droit. De nouveaux examens seront réalisés la semaine prochaine en fonction de l'évolution de la blessure. Et ce n'est pas la première fois cette saison que l'international français a des pépins physiques. Comme le rappelait hier sur RMC, Johan Crochet, spécialiste du foot italien.
Ça commence à faire beaucoup pour Mike Maignan, entre les mollets, l'adducteur, la cuisse. Chaque saison, il y a des matchs ratés avec la sélection, oui, de l'équipe de France ou avec le Milan.
Mollet, adducteur, cuisse, c'est vrai que ça fait beaucoup, tout cela en une seule saison, ça fait beaucoup, surtout pour un gardien.
Ouais, mais alors, soyons concrets, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que Mike Maignan sera dans la cage de l'équipe de France pour l'Euro?
Alors, selon les informations de RMC Sport, cette nouvelle blessure ne devrait a priori pas remettre en cause sa participation à l'Euro. Rappelons que le premier match des Bleus, c'est le 17 juin face à l'Autriche. Mais le spectre de la Coupe du Monde 2022 ressurgit pour Magic Mike. Il avait dû y renoncer, souvenez-vous, touché au mollet. Son absence avait finalement été assez indolore puisque à l'époque, c'était le numéro 2 derrière Hugo Lloris. Mais depuis le retrait du recordman de sélection en bleu, eh bien, le gardien du temple, c'est bien lui. Derrière, c'est vrai, il y a Brissamba, il y a Areola également. Mais le patron, c'est Maignan qui parvient à garder sa cage aviolée. Un match sur deux en sélection tout de même. Et surtout, il dispose d'une qualité qui nous manquait depuis plusieurs années.
La courbe d'élan de Memphis. L'arrêt de Maignan. Memphis qui retente. Et Maignan qui l'arrête. Voilà un gardien de but qui arrête les pénaltys.
Maignan est là pour tout simplement phénoménal en séance de tir au but. Ou lors de matchs notamment, il arrête un pénalty sur trois. Mike Maignan, c'est considérable pour un gardien de but. Et évidemment, c'est un atout indéniable tournoi international.
Évidemment, quand on est au fin fond des prolongations, qu'on se ronge les ongles et que c'est parti pour la séance de tir au but... C'est très rassurant d'avoir un Mike Maignan. On espère que c'est l'adducteur, hein, c'est ça, que ça sera réglé pour le premier match des Bleus. Le 17 juin, c'est ça?
C'est ça, face à l'Autriche.
Face à l'Autriche, et on est confiant, hein, pour les Bleus, on y croit.
Ça va le faire.
Ouais, pour Mike Maignan.
On est favori en tout cas.
Ah, on est clairement favori, non? Tout le monde autour, il n'y a pas de débat. Quand même. La table, Anthony, non?
Oh, bah non, c'est clair.
Géraldine?
Moi, je vous suis. Enfin, j'espère face à l'Autriche. Déjà qu'on gagnera face à l'Autriche. C'est déjà une bonne.
Et Ronan, qui est toujours avec nous au 32-16, Ronan, on va le gagner cet euro ou pas?
Oui, c'est sûr.
Voilà, c'est réglé. Bon, même pas la peine de jouer, on est tous d'accord. L'euro, c'est pour les Bleus. Et puis tiens, passons à table. Anthony, bah tiens, les sportifs en mangent beaucoup du poisson. Et alors toi, tu nous parles justement de ces nouvelles alternatives végétales à la viande. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe aussi désormais des alternatives au poisson, des toasts au saumon fumé, des sushis au thon, mais sans un gramme de vrai poisson. C'est ça que t'as pu goûter?
Ouais, absolument. Alors moi, je dois dire qu'en règle générale, je suis pas un grand fan des alternatives végétales à la viande. Je suis plutôt plutôt viandard. Donc voilà, je trouve ça assez peu réussi en général, à part peut-être les nuggets de poulet, mais qui sont pas vraiment du poulet déjà à la base. Donc c'est pas incroyable, tu vois. Donc la différence se fait pas vraiment. Mais sur le poisson, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. J'ai testé ça un peu par hasard. C'est une start-up française qui s'appelle Olala Food. C'est pas pour leur faire de la pub, parce qu'on peut même pas acheter leurs produits. C'est pour l'instant seulement dans les restaurants qu'on les trouve. Peut-être que ça arrivera dans les rayons d'ici quelques mois ou quelques années. C'est assez étonnant. Ils sont parvenus à reproduire l'apparence, la texture et le goût du saumon fumé, du thon cru, du thon cuit. Alors ils font plein de produits différents. Donc tu as par exemple des toasts de saumon fumé et tu vas avoir vraiment la couleur du saumon, la texture du thon. Tu as les petites nervures même à la surface. Et au goût, à l'œil et en bouche, vraiment tu as l'impression de manger du saumon. Je pense que si on ne me l'avait pas dit que c'était du faux, je ne suis même pas sûr que j'aurais fait la différence en réalité. C'est ça qui est très spectaculaire. Sauf qu'à l'intérieur, eh bien en fait, tu as alors de la protéine de pois, de l'huile de colza, des fibres de chicorée, du concentré de carotte, ça c'est pour la couleur. Une huile de micro-algues riche en oméga 3 parce qu'il s'agit aussi de reconstituer les apports nutritionnels. Ça fait pas rêver dit comme ça, on est d'accord.
C'est comme la saucisse, faut pas vraiment dire ce qu'il y a dedans, sinon on n'en mange plus quoi.
T'as raison, faut pas trop entrer dans les coulisses et dans la cuisine.
Exactement.
Mais si tu n'entres pas dans ces détails-là, franchement, ça le fait vraiment pas mal. Il faut aussi du tarama de la même manière, c'est vraiment pas mal.
Mais d'ailleurs, il y a de plus en plus d'innovations dans le domaine des ce qu'on appelle désormais les alternatives végétales. Bon, certains vont quand même assez loin.
Ouais, ça va assez loin. Alors par exemple, t'as le kraken, qui est une alternative végétale au poulpe, et ça ressemble vraiment à des tentacules de poulpe avec les petites ventouses et tout, c'est incroyable. Les viandes qui vont utiliser.
On peut se passer de poulpe sinon, tout simplement.
Alors on peut se passer de poulpe. Non, mais t'as raison. Après, les arguments, tu sais, c'est toujours les mêmes. T'as argument écologique, empreinte carbone diminuée. Pour les poissons, t'as moins de surpêche, donc t'as vraiment ça. Ça permet aussi aux véganes d'avoir des alternatives et d'avoir un apport en protéines. Mais c'est vrai que les résultats sont de plus en plus spectaculaires, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Pour les steaks, par exemple, ils utilisent maintenant de la l'hémoglobine. C'est de l'hémoglobine végétale, une protéine rouge vif qui va donner à ces steaks végétaux l'illusion qu'il est saignant, le goût caractéristique de la viande. On peut parler des œufs aussi. J'ai testé des crêpes avec des œufs pas pondus, ça s'appelle comme ça. C'est des œufs en fait qui sont créés à partir de févrole notamment. Franchement, tu m'aurais pas dit. Enfin, c'est des crêpes qui ont un gros goût de crêpe tout à fait classique.
Pas, pour l'instant, on lève tous les yeux au ciel, mais peut-être que dans 10 ans, on mangera que des œufs et des poissons.
Mais en fait, tant que tu t'en restes pas vraiment à ce que c'est, ça passe. Hein.
Bah franchement, par rapport à la viande,
t'arrêtes de nous dire ce qu'il y a dedans.
Mais en fait, c'est ça. C'est ça non, mais par rapport au truc industriel que tu trouves, en réalité, en termes de goût, c'est vraiment pas pire.
Et peut-être qu'on est des vieux ringards. Posons la question. Un jeune, Ronan a à peine 23 ans, notre étudiant en droit. Ronan, prêt à manger du poisson sans poisson à l'avenir ?
Bah écoutez, je pense qu'on a tous vu le film Les loups la cuisse.
Ouais,
bah écoutez, moi ça me fait pas envie. Hein, franchement, quand je vois ces trucs-là. Non, mais sans déconner, si on veut manger de la viande, on mange de la viande. Et si on veut en manger, bah on en mange pas. Mais il n'y a pas à reproduire des trucs comme ça.
Est-ce qu'il faut vraiment tout remplacer ? Ça, c'est pas faux, Ronan. Ah, est-ce qu'il faut aller. Non, mais parce que aller jusqu'au poulpe. Je pense qu'on peut devenir végane sans se dire
sans manger de poulpe.
Ouais, je sais pas, je connais personne qui se dit je ne deviens pas végane parce que le poulpe me manquerait trop. Mais
ouais,
bon,
c'est l'exemple
vaste,
un peu
vaste débat. Et puis Géraldine, tiens, du made in France qui cartonne, la musique française s'exporte de plus en plus.
Ouais, plus 30% de ventes et d'écoute à l'étranger l'an dernier. Sans surprise, en 2023, bah c'est Aya Nakamura qui a porté le marché français à l'export. Chez les hommes, on peut citer les très beaux scores de Dadju, de Gazo ou encore de Soul King. C'est vraiment des titres qui s'exportent extrêmement bien. On note aussi, tiens, une percée d'une chanson de Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans. Parmi les titres français les plus écoutés à l'étranger cette année, en fait, elle a été samplée par la star du reggaeton Bad Bunny pour son tube Monaco.
Bah comme quoi, hein, rien ne se perd en matière musicale. Donc Aznavour, voilà, les jeunes qui écoutent Bad Bunny sont allés chercher qui était l'auteur original en allant chercher du Charles Aznavour. Bah pourquoi
c'est
pas
bien, ça permet ça, le partage entre générations.
À la musique française de rayonner. Donc j'ai bien retenu Aya Nakamura, Charles Aznavour, Soul King, Dadju, Gazo, voilà les figures françaises qui cartonnent à l'étranger sur le marché musical. Il est 5h56, on va remercier Ronan d'être passé au 32-16 ce matin, chauffeur-livreur de bonne heure, puis étudiant en droit la journée, et avec RMC évidemment pour l'accompagner. Vous faites comme Ronan, vous venez témoigner ce matin, ça se passe au 32-16, et puis toute l'info dans un instant, c'est votre journal de 6h avec justement les tout derniers éléments sur l'enquête après le meurtre de Mathis, 15 ans à Châteauroux. L'agresseur présumé a été placé en détention provisoire. Excellent réveil à tous sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu, en direct avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La mort de Matisse à Châteauroux, le suspect de 15 ans et sa mère mise en examen hier soir. L'adolescent placé en détention provisoire 48 heures après la mort du jeune Matisse, tué après une altercation quelques heures avant le drame. Gérard Depardieu sera jugé. Ce sera en octobre de cette année. L'acteur va comparaître en correctionnel pour agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. Et puis l'espoir d'une trêve qui renaît ce matin dans la bande de Gaza. Négociation hier soir en Égypte, proposition d'Israël et réponse attendue du Hamas.
Et ce conflit israélo-palestinien qui s'importe dans les facs françaises, intervention hier de la police du côté de la Sorbonne. On annonce des mobilisations aujourd'hui sur les campus à Lyon et à Reims. Ça fait réagir l'UNI, le syndicat étudiant. Son représentant sera avec nous juste après votre journal. Quentin, il dénonce le gouvernement, le laxisme du gouvernement face à ces manifestants. C'est donc l'info de la soirée, la mise en examen du suspect de 15 ans dans l'affaire du meurtre de Matisse.
Oui, c'était samedi à Châteauroux, la mort de Matisse, donc 15 ans lui aussi, tué à l'arme blanche. L'adolescent a été écroué et mis en examen. Sa mère également mise en examen. Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, vous nous révéliez dès hier midi sur RMC que les deux adolescents se connaissaient et que les coups de couteau mortel ont été donnés quelques heures après une altercation au cours de laquelle Matisse aurait insulté et frappé le suspect.
Oui, une altercation en fin de matinée. Samedi, Matisse aurait insulté l'adolescent afghan en raison de ses origines. Fils de Ben Laden, fils d'Afghan, retourne dans ton pays. Et il lui aurait asséné un coup de poing au visage. Un récit confirmé par des témoins, blessure et ecchymose également constatée par un médecin. Incapable de décolérer, c'est pour se venger que le suspect est ressorti quelques heures plus tard, poignardant le jeune Matisse devant ses amis. Sa mère, qui l'avait suivi, est soupçonnée d'avoir giflé Matisse alors qu'il était à terre et demandait de l'aide, d'après deux témoins entendus par les enquêteurs. La mère de famille, elle, a nié avoir porté des coups. Elle affirme qu'elle voulait séparer les deux adolescents, ajoutant que son fils a des problèmes psychologiques et qu'il n'arrive pas à se contrôler.
Et voilà dans quel contexte le Premier ministre Gabriel Attal a entamé, comme prévu, ses consultations avec les groupes politiques insoumis et majorité hier pour tenter d'endiguer ce phénomène de violence des mineurs. Gérard Depardieu sera donc jugé. Ce sera au mois d'octobre. L'acteur qui est convoqué devant le tribunal correctionnel, lui qui est déjà mis en examen pour viol, Marion Dubreuil du service police-justice à RMC. Gérard Depardieu donc sera jugé pour agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021.
Oui, l'acteur sera jugé pour des agressions sexuelles sur deux femmes qui ont déposé plainte cette année. Les faits qu'elle dénonce remontent au mois de septembre 2021 sur le tournage des Volets Verts. Une décoratrice du film, âgée de 53 ans, accuse Gérard Depardieu de l'avoir coincé entre ses jambes et pétri la taille jusqu'au sein en menaçant sur le ton de la blague de la pénétrer. La troisième assistante réalisatrice du même long métrage, âgée de 33 ans, a dénoncé quant à elle de nombreux attouchements à la poitrine et sur les fesses. Elles avaient affirmé que l'acteur avait dû s'excuser auprès d'elle à la demande de l'équipe de production. Une troisième plaignante a été confrontée, elle aussi, hier après-midi au comédien. Elle dénonçait des attouchements quand elle n'avait que 24 ans sur le tournage d'un court-métrage. C'était il y a 10 ans, mais les faits sont aujourd'hui prescrits.
C'est une des informations de la soirée, la mise en examen d'Arnaud Lagardère. À l'issue d'une journée d'interrogatoire, l'homme d'affaires soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant de longues années. L'heure des explications. La patronne des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, et la candidate aux Européennes sur la liste LFI, Rima Hassan, sont convoquées toutes les deux par la police ce matin pour apologie publique d'actes de terrorisme dans des prises de parole récemment. Ce qu'elle contexte vigoureusement. Dans le contexte du conflit au Proche-Orient qui a gagné, hein, Charles le disait, le monde et étudiants, notamment la Sorbonne à Paris, bloqué par une cinquantaine de manifestants pro-palestiniens jusqu'à hier et évacué par la police hier après-midi.
Notre objectif, c'était pas d'empêcher les cours. Je pense que c'est plutôt une décision politique qui vient du gouvernement de faire taire les voix de soutien à la Palestine et aussi de nous faire passer pour ceux qui empêchent la tenue des cours, alors que ce n'est pas du tout notre volonté, bien au contraire.
Bah, faire une occupation pacifiste pour qu'on nous écoute, voilà, et apparemment ça fonctionne. On nous a envoyé les CRS, donc quand on envoie les CRS, c'est que on fait un peu peur apparemment, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de nous écouter.
Et alors ce matin, l'espoir d'une trêve, une deuxième trêve, cet espoir renaît dans la bande de Gaza. Il y avait des négociations hier soir en Égypte qui jouent avec le Qatar et les États-Unis un rôle de médiateur dans ce conflit. Les Israéliens ont fait une proposition et le Hamas doit maintenant donner sa réponse, Marion Gauthier.
Toute la pression du monde devrait être braquée sur le Hamas pour lui dire d'accepter cet accord, a déclaré le ministre des Affaires étrangères britannique. Les choses se présentent mieux cette fois, concède un responsable palestinien, mais il est trop tôt pour parler d'une atmosphère positive dans les négociations, prévient un autre. L'État hébreu proposerait un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens contre celle d'une trentaine d'otages israéliens. Le Hamas réclame un cessez-le-feu permanent. Israël proposerait une période de calme durable, un retrait partiel de ses troupes et une liberté de déplacement pour les civils qui pourraient donc retourner dans le nord de la bande de Gaza. La seule trêve depuis le début du conflit a été instaurée fin novembre. Elle a duré une semaine.
Ce sera l'image du jour, sans aucun doute. Le roi Charles va reprendre ses activités publiques au Royaume-Uni avec la visite annoncée aujourd'hui d'un centre de traitement du cancer, d'autant plus symbolique qu'il a lui-même été diagnostiqué en février d'un cancer. Les médecins d'ailleurs sont satisfaits de son état de santé, voilà ce que nous dit Buckingham. Des nouvelles ce matin de l'autoroute A13 à l'ouest de Paris. L'autoroute ne rouvrira pas demain, comme c'était annoncé. Encore 10 jours de fermeture. La circulation reprendra le 11 mai. Mais alors seulement pour les véhicules légers et dans un seul sens de circulation, le sens Normandie-Paris. Et d'après le Canard enchaîné, c'est un chantier à Saint-Cloud qui aurait entraîné les fissures sur la chaussée. Le foot, avec le début des demi-finales de la Ligue des Champions ce soir. Le Bayern Munich contre le Real Madrid. 21h ce match sur RMC, c'est le match aller en attendant Paris à Dortmund demain. Avec tous les Parisiens, l'espère évidemment un grand Kylian Mbappé dès le match aller cette fois, hein, Fabrice Hawkins.
Depuis le quart de finale retour contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a été mis au frais par son entraîneur. Il n'a joué que 50% du temps lors des 3 derniers matchs de championnat. Contre Dortmund, ce sera une autre histoire. Mbappé sera titulaire. Le champion du monde est très attendu pour sa dernière campagne de Coupe d'Europe avec le club de la capitale. Le joueur est très motivé et veut sortir une performance de haut niveau face à un adversaire qu'il connaît bien. En 6 matchs contre les Allemands, l'attaquant a marqué 4 buts pour une passe décisive. Dans sa quête pour le Ballon d'Or, il sait que ses rendez-vous sont importants. Cette saison est peut-être la bonne pour lui comme pour le Paris Saint-Germain, qui sera donc porté par le numéro 7, mais aussi par son ami Ousmane Dembélé, qui voudra briller comme en quart de finale face à l'un de ses anciens clubs.
Et alors, il y en a un qui est très optimiste pour le Paris Saint-Germain, c'est pas Charles Magnin.
Aussi.
C'est l'ancien président de Lyon, peut-être encore plus optimiste. Jean-Michel Aulas, il y croit vraiment cette année pour Paris.
Franchement, c'est la bonne année. Certes, Kylian va s'en aller, mais qui plus que lui a envie de la gagner avec son club qu'il a accueilli pendant des années. Il y a une dynamique de victoire qui est très importante. Et puis, un entraîneur qui donne à ce Paris Saint-Germain une nouvelle ambition. J'ai souvent dit à Nasser que c'était la bonne année.
Supporter de Paris est d'accord ou pas avec Jean-Michel Aulas?
Ah bah oui, forcément. Okay. Si même les Lyonnais sont derrière le PSG, on y croit. On est aussi optimiste que Jean-Michel Aulas, Manu Le Chypre. Salut Manu.
Ça va bien.
Ça va très bien. Est-ce qu'on y croit aussi? C'est la bonne année pour Paris?
Pour la demi-finale, oui, mais après, moi, je me méfie des deux équipes.
Oui, parce qu'on rappelle que ce soir, y a Real-Bayern.
Bayern, en Allemagne, le match.
En Allemagne, le match, mais surtout, voilà, ça annonce, quoi qu'il arrive, du très lourd en finale. Il faudra d'abord
Real,
passer.
C'est mieux quand même.
Ah bon? Que le Bayern? Ah, bah, je préfère le Bayern pour la vengeance.
Mais vous êtes vieux. Vous êtes jeune. Moi qui suis vieux, je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que de perdre face au Bayern de Munich.
C'est déjà arrivé au PSG. Je sais bien.
Je ne me suis jamais remis de Glasgow 76. Saint-Etienne, Bayern.
Et on garde les Marseillais ont réussi, eux.
On va garder le suspense pour demain pour le prono du match à Dortmund. Le prono de Manu. Ce sera demain à la même heure à 6h09. Mais en attendant, c'est l'heure de jouer avec vous.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Oui, tous les matins, vous qui écoutez toute l'info sur RMC, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à une question d'actu.
Quelle université parisienne a été bloquée hier par des manifestants pro-palestiniens?
Ah, bah, la réponse, on vous la donne depuis 4h30 ce matin.
Bien avec nous parce qu'on va en reparler aussi.
Et on va en reparler aussi, mais c'est dès maintenant qu'il faut jouer. Envoyez actu par SMS au 732-16.
Et vous pourrez gagner un super radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC.
Évidemment, on vous offrira aussi la coque, tiens, pour smartphone RMC. C'est pour vous si vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Justement, après Sciences Po Paris la semaine dernière, le blocage de la Sorbonne hier, les facs françaises vont-elles se déchirer autour du conflit israélo-palestinien? Des mobilisations sur les campus sont annoncées aujourd'hui du côté de Lyon, de Reims. Bonjour Yvonne Lecauze, délégué national du syndicat étudiant uni. Vous accusez le gouvernement de laxisme face à ces manifestants. Vous répondez à toutes les questions tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 6h12. Bon réveil à tous sur RMC.
L'invité de Charles Matin.
Les universités françaises vont-elles s'embraser comme les facs américaines autour du conflit israélo-palestinien? Bonjour Yvonne Lecauze, délégué national du syndicat UNI, syndicat qu'on classe régulièrement à droite. Vous dénoncez depuis plusieurs jours les blocages, les occupations de facs, mais aussi de Sciences Po. Hier soir, d'ailleurs, vous aviez rendez-vous, il me semble, avec la ministre Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur. C'était pour parler des bourses, c'est ça? Mais est-ce que vous avez abordé la question de ce qui se passe en ce moment, de l'actualité brûlante sur les campus français?
Oui, tout à fait. À la fin, on a eu un temps d'échange d'une dizaine de minutes sur la question des blocages et des occupations dans les universités. Malheureusement, suite à notre question sur la ministre qui était claire, qui portait sur les sanctions contre les bloqueurs et les occupants des universités, elle a été incapable de nous dire avec clarté si ils seraient tous sanctionnés. Donc nous, c'est cet entre-deux constant qu'on dénonce avec l'UNI et qui, d'après nous, aujourd'hui mène à cet effet domino où hier, c'était plus seulement Sciences Po, mais c'était également la Sorbonne et Sciences Po Lyon qui étaient bloqués. Et aujourd'hui, de nouveaux établissements devraient l'être.
Alors, vous dénoncez, oui, le laxisme du gouvernement, mais pourtant, hier, il y a eu une réponse assez claire et rapide, on va dire comme ça. À la Sorbonne, quelques tentes ont été installées dans la cour d'honneur. Immédiatement, on a vu les CRS rentrer à la Sorbonne. C'est pas anodin, non? C'était la bonne méthode, c'est ce qu'il fallait faire. Non, là-dessus, vous applaudissez le gouvernement.
Ah oui, là-dessus, on applaudit le gouvernement, surtout que c'est le Premier ministre qui a demandé cette intervention. Bon, après, il faut savoir qu'on en arrive à cette situation, car il y a eu un laxisme auparavant. Quand on a la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui applaudit la direction de Sciences Po lorsqu'ils annoncent qu'ils ont trouvé un accord avec les pro-palestiniens, alors qu'il me semble qu'on ne négocie pas avec des gens qui bloquent illégalement un établissement, qui occupent illégalement un établissement et qui tiennent des slogans antisémites et pro-Hamas. En tout cas, moi, il me semble.
Mais qui sont étudiants de Sciences Po. Donc la direction a dialogué avec les étudiants bloqueurs et trouvé un accord pour sortir du blocage.
Tout à fait, ils sont étudiants à Sciences Po, mais demain.
Est-ce qu'on les exclut, ceux qui ont participé au blocage?
Alors, les exclure, bon, en tout cas, on doit les emmener on doit mener des sanctions disciplinaires, ça c'est certain. Est-ce qu'on doit les exclure? Ça c'est la commission disciplinaire qui le décidera. Mais lorsqu'on bloque, lorsqu'on enfreint un règlement, tout simplement, on doit derrière être sanctionné. Et si on n'est pas sanctionné, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi et c'est ce qui se passe maintenant en France.
Oui, mais quand on est étudiant, on ne devrait pas manifester, se mobiliser sur son campus. J'aimerais vous faire écouter, tiens, vous parliez justement de Sciences Po Lyon, il y a aussi la fac Lyon 3 où des rassemblements pro-palestiniens sont prévus. J'aimerais vous faire écouter le témoignage de deux jeunes étudiantes qui ont prévu de manifester aujourd'hui. Écoutez.
C'est une situation qui est juste désastreuse et qui m'émeut beaucoup. C'est des moyens de manifester qui sont totalement légitimes, qui ont toujours fait partie des luttes, qui n'entachent en rien la légitimité du mouvement.
On peut plus défendre une cause sans qu'on nous tâche de quelque chose d'autre. C'est pas une question d'antisémitisme. Et je trouve qu'on se fait trop vite attacher de ça pendant que c'est vraiment pas le cas et ça n'a jamais été dans nos convictions.
Voilà, des étudiantes qui se défendent de tout antisémitisme et qui disent c'est notre rôle presque en tant qu'étudiant de se mobiliser. Ça, vous le contestez aussi, un étudiant doit juste aller à la fac ou à Sciences Po et étudier sans se mobiliser?
Absolument pas. Un étudiant peut se mobiliser. Il peut distribuer des tracts. Il peut aller en manifestation lorsqu'elle est déclarée. Il peut coller des affiches. Il a le droit de s'exprimer lors d'assemblées générales. Par contre, il y a un règlement et il y a des lois. Et lorsqu'on ne respecte pas ce règlement et ces lois, on doit être sanctionné. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Et je tiens également à ajouter que tous les étudiants, effectivement, qui manifestent leur opposition à une certaine politique israélienne, ne sont pas des étudiants antisémites ou pro-Hamas. Par contre, une bonne partie d'entre eux vont l'être. Et malheureusement, on a certaines organisations, dont la France Insoumise et dont l'Union étudiante et l'UNEF, qui vont jeter l'huile sur le feu. Et derrière, on se retrouve dans ce genre de situation.
Alors, vous dénoncez justement, oui, certains slogans, certains signes. Je pense à cette main rouge qu'on a vue du côté de Sciences Po la semaine dernière. C'est notamment ce qui a poussé Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, à annoncer hier la suspension de certains financements de la région à Sciences Po Paris. Est-ce que ça, c'est une bonne solution, une bonne réponse selon vous? Est-ce que ça ne va pas pénaliser finalement tous les étudiants alors que vous dénoncez un blocage d'une petite minorité?
Effectivement, c'est une bonne réponse. Ça a déjà été fait. Vous savez, je suis étudiant à Sciences Po Grenoble aussi. Oui. Ça a été fait par Laurent Wauquiez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour Sciences Po Grenoble quand la direction n'avait pas correctement soutenu les deux professeurs.
Mais donc on pénalise tous les étudiants.
C'est pas vraiment pénaliser tous les étudiants. C'est tout simplement dire stop à la direction qui a négocié avec des terroristes intellectuels. Parce que moi, à un moment, il faut dire les termes. Ce sont des terroristes intellectuels. Ce sont des gens qui, au sein de Sciences Po, chassent les juifs, chassent les sionistes et chassent les étudiants de droite. C'est ça la réalité des choses. Et à un moment, Valérie Pécresse a dit qu'il fallait mettre un holà. Et après de nombreuses négociations, La direction de Sciences Po n'a pas jugé bon d'écouter le bon sens et de faire respecter le règlement, eh bien la région Île-de-France a suspendu les financements.
Alors, j'entends que vous nous dites qu'il y a des étudiants qui chassent les juifs à l'intérieur de Sciences Po, et pour autant, vous me dites, faut pas forcément les exclure, faut voir des procédures disciplinaires, etc. S'il y a vraiment une chasse aux juifs à Sciences Po, c'est que le problème est beaucoup plus large que cette manifestation ou des procédures disciplinaires, là, non ?
Tous ceux qui ont bloqué ou tous ceux qui ont occupé illégalement Sciences Po ne sont pas antisémites. C'est ceux qui sont antisémites, c'est une minorité. Mais cette minorité-là, effectivement, il faut l'exclure. Et d'ailleurs, les sanctions disciplinaires ne sont pas levées pour cette minorité. Par contre, moi, ce que je demande, et ce qu'on demande avec l'UNI, c'est des sanctions disciplinaires pour l'ensemble des étudiants qui ont bloqué et occupé les locaux. Mais ces sanctions disciplinaires ne doivent pas forcément mener à une exclusion. Ça, c'est à la commission disciplinaire de le décider.
Et au-delà de ces sanctions, il y a la question de l'instrumentalisation politique, parce qu'il y avait en effet des étudiants, mais pas que, des militants, mais également des élus lors de ces mobilisations, que ce soit à Sciences Po la semaine dernière, à la Sorbonne hier, on a vu des députés de la France Insoumise, je pense à Louis Boyard, qui sera dans 2 heures maintenant face à Apolline, à ce même micro sur RMC et BFM TV dans le face-à-face, ce député de la France Insoumise qui lui encourage, invite tous les étudiants de France à Sciences Po, mais sur tous les campus, à justement se mobiliser, à bloquer. Si vous deviez vous adresser à Louis Boyard, là, si vous aviez un message à lui faire passer ce matin.
Mais la question ne se poserait même pas, parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans la discussion. C'est-à-dire que là, je pourrais me retrouver face à Louis Boyard, il ne refuserait de discuter avec moi, parce qu'il refuse de discuter avec les gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. On a des députés de la France Insoumise, on a la France Insoumise. Il faut quand même rappeler que c'est le parti du chaos. La France Insoumise, c'est le parti qui a soutenu les émeutes en juin dernier. La France Insoumise, c'est le parti qui soutenait déjà les blocages des universités lors de la réforme des retraites. La France Insoumise, c'est aujourd'hui, étonnamment, le parti qui soutient les blocages et les occupations d'universités pour un conflit qui a lieu à l'autre bout du monde. La France Insoumise, on ne les entend pas pour les chrétiens qui sont persécutés en Algérie ou en Égypte. La France Insoumise, on ne les entend pas pour les Ouïghours en Chine. Par contre, pour des questions électorales, là, on va les entendre pour la question
israélo-palestinienne. Il y a un terme qui revient souvent, c'est celui de l'islamo-gauchisme qui gangrènerait les facs. Est-ce que Louis Boyard est un symbole pour vous, Yvan Lecaus? Vous êtes délégué national du syndicat étudiant uni. Est-ce que vous constatez cet islamo-gauchisme et est-ce que Louis Boyard est un symbole?
Louis Boyard et la France Insoumise sont un symbole de cet islamo-gauchisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des personnes de gauche, si ce n'est d'extrême gauche, qui, par électoralisme, vont faire quelques clins d'œil à un certain électorat qui est un électorat musulman et un électorat musulman très radical. Il faut quand même s'apercevoir que on a 45% des Français musulmans qui ne condamnent pas totalement les attentats du 7 octobre. C'est 45%. Et ces 45%, la France Insoumise veut leur vote, la France Insoumise veut leur voix le 9 juin, et donc ils vont se positionner comme ils se positionnent actuellement, c'est-à-dire contre Israël, et pour certains même en faveur du Hamas, quand on entend certains propos, notamment Daniel Obono, qui avait refusé de considérer que c'est un mouvement terroriste.
Les réponses de Louis Boyard tout à l'heure sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. Mais merci Yvan Lecaus, délégué national du syndicat uni, d'être venu ce matin. Dénoncer le laxisme du gouvernement. Vous satisfaisez de ce qui a été fait hier du côté de la Sorbonne, mais vous appelez à empêcher, si je comprends bien, les blocages aujourd'hui sur d'autres campus. On parle de Lyon, de Sciences Po aussi, du côté de Saint-Etienne, de Reims aussi. On verra ce qu'il en est aujourd'hui, mais je vous remercie d'être venu réagir ce matin en direct sur RMC. Il est 6h21.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h21, c'est Manu Le Chip qui nous rejoint pour la conso dans un instant, Manu.
Eh bien oui, figurez-vous que la Française des Jeux ne nous propose plus seulement de gagner des millions, mais aussi de gérer nos comptes en banque.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin. Vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure de parler gros sous avec Manu.
RMC, Manu Conso.
Avec Emmanuel Le Chypre, donc la Française des Jeux, qui ne nous propose plus seulement de gagner des millions, elle propose aussi désormais de gérer notre argent.
Et oui, figurez-vous qu'en janvier 2023, la FDJ avait lancé Nirio. C'était une application qui permettait de régler chez 15 200 buralistes des factures qu'on doit au service public. Donc c'était les PV, les factures d'énergie, les loyers aux bailleurs sociaux ou bien les impôts pour des montants inférieurs à 300 euros. Et ça marche bien, si bien que la FDJ a décidé d'étoffer son offre financière en proposant carrément l'ouverture d'un compte en banque baptisé Premio, assorti d'une carte de paiement sans autorisation de découvert, et donc il sera possible de faire des opérations simples comme le dépôt, le retrait d'espèces dans les commerces agréés du réseau, avec pas mal d'outils, et ça c'est aussi un peu une innovation, avec pas mal d'outils d'aide à la gestion du quotidien sur des applis pour essayer de pas être à découvert.
Mais quelle est la cible là, de la FDJ ? À qui est destinée cette offre ?
Alors, c'est une offre sans condition de revenu, donc tout le monde peut la solliciter, mais ça vise quand même surtout les Français à petits moyens. C'est une offre qui sera assez peu coûteuse, hein, moins de 3 euros par mois ou 30 euros par an. Une offre destinée à concurrencer le compte Nickel, hein, vous savez, oui. 3,5 millions de clients, mais en essayant d'être un peu plus strict sur le contrôle de l'origine des fonds, puisque Nickel avait été condamné par l'autorité des marchés financiers en 2023 pour prévention insuffisante des risques de blanchiment, puisqu'il faut rappeler quand même que ces petits comptes sont très prisés de ceux qui ont des choses à cacher.
Oui, donc la FDJ promet d'être un peu plus
regardante, effectivement.
Un peu plus regardante sur ces comptes qui s'appellent donc Premio, c'est ça?
Exactement.
Hein, le nouveau compte bancaire de la Française des Jeux, et on le recommande ou pas, Manu? Ou c'est une offre purement marketing et commerciale? Il n'y a rien de très nouveau dans cette offre?
Ça peut être une offre annexe si vous avez... Non, il n'y a rien de très nouveau. C'est l'idée de profiter du réseau des buralistes pour avoir une offre bancaire assez simple et effectivement de concurrencer le compte Nickel qui se porte très bien, qui est une très bonne affaire. Et donc la FDJ s'est dit, pourquoi ne pas aller sur ce créneau-là?
À suivre donc, c'était Manu Conso avec Manu Le Chypre.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et c'est Daniel qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce matin. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Comment ça va ce matin Daniel?
Très bien.
Très bien. Bon, je ne vais pas donner votre âge, Daniel, mais je vais dire que vous êtes retraité, ça vous va?
Oui, c'est ça.
Retraité du côté de Courbevoie, Daniel, vous avez été tiré au sort pour gagner avec nous ce matin. Mais attention, Daniel, il faut répondre d'abord à la question d'actu.
Quelle université parisienne a été bloquée hier par des manifestants pro-palestiniens, Daniel?
La Sorbonne.
Bravo, c'est l'université de la Sorbonne qui a été bloquée puis évacuée par la police hier après-midi. Daniel, vous avez gagné
votre radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC tous les matins.
Et puis on va vous envoyer une belle coque pour le téléphone, pour le smartphone, une coque RMC. Daniel, on vous envoie tout ça du côté de Courbevoie.
D'accord, entendu.
Eh ben c'est entendu, Daniel. C'est un deal réglé. Voilà, c'est gagné. C'est pour vous, Daniel. Et puis la bonne nouvelle suivante, c'est l'arrivée dans ce studio d'Apolline de Malherbe pour se réveiller tous ensemble. Salut, Apolline.
Se réveiller tous ensemble avec une telle douceur.
Mais oui, c'est aussi le plaisir du réveil.